بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شيخ خير toutes les louanges reviennent à Allah رب العزة qui nous permet de consacrer 20 minutes ce soir pour étudier un peu la sira, la biographie de notre prophète alayhi salat wa salam. Et on avait terminé il y a deux semaines les objectifs pour lesquels le musulman, le croyant, se doit absolument d'étudier la sirat. Qu'est-ce que cela nous apporte? Et le dernier point qu'on avait vu, c'était pour éviter une lecture entre guillemets fanatique des textes, un détournement des textes, comme on a vu il y a quelque temps avec le terrorisme, ainsi de suite, où les gens prenaient des versets et les utilisaient à des fins criminelles. Je le dis à des fins politiques, non, on va dire carrément à des fins criminelles. Et quand on remet les versets, les hadiths de leur contexte, on se rend compte que ce n'était pas du tout le message de l'islam. Celui qui ne connaît rien, il entend un verset, un hadith, il croit. Il dit, c'est certainement ça, la religion. Celui qui a la connaissance, qui lit, qui s'informe, qui réactualise tout ce qu'on a eu l'occasion d'apprendre à la madrasa quand on était petit, plus jeune, on se rend compte que l'islam est une religion parfaite. C'est vraiment la religion du juste milieu. C'est une religion spirituelle où on s'oriente vers Allah, une religion profondément humaine où on essaie d'avoir les meilleures relations avec les gens. Et ça, on trouve dans tous les versets, à commencer par Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب croient en l'invisible ويقيمون الصلاة le droit d'Allah et ومما رزقناهم ينفقون et qui donnent de ce que nous leur avons attribué. Tu veux être un bon croyant, ton cœur avec Allah, ton corps se prosterne devant Allah et tu donnes aux gens, tu partages. Tu fais, bi'idhnillah, vivre la société par ta générosité, par la grâce d'Allah. Ça, c'est une religion qui s'inscrit dans toutes les cultures, dans tous les pays, dans toutes les civilisations, toutes les époques, et qui permet aux hommes de vivre ensemble et le cœur orienté vers Allah, Azza wa Jalla. Ce que nous voyons ce soir, Inch'Allah, ça ne va pas être long. Parce qu'on ne va pas faire une présentation détaillée. On va dire, si on voulait faire en mode conférencier professionnel, ça aurait été avec une vidéoprojection, avec un tableau et tout. Mais non, on va le faire simple. En fait, tout ça, c'est des choses qu'on connaît déjà. On a déjà appris, entendu, et on veut juste réactualiser un peu ces connaissances. On veut comprendre dans quel contexte le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être envoyé de la péninsule arabe. C'est-à-dire, comment sa mission sera, un adjectif sera, j'ai pas encore bien... On n'est pas bien entré dans le sujet alors du coup. Comment sa mission sera difficile? Comment sa mission sera délicate? Parce que cette péninsule arabe, il y avait toutes les religions dedans. Il y avait la religion Nasara, les chrétiens, la religion des Yahoud, des Juifs, de la péninsule arabe, mais peu d'influence. Les Yahoud et les Nasara, peu d'influence de la péninsule arabe. Le gros problème venait de... Les adorateurs des idoles, les polythéistes. C'était le gros problème. Parce que, si on fait simple, après on explique, ils estimaient être les héritiers de Ibrahim alayhi salam. Ils estimaient être les héritiers de la religion, je veux dire, de Ibrahim alayhi salam. Ce qui était des Arabes. Leur père, c'est Ibrahim. Le message a été propagé par son fils qui s'appelait Ismaïl. Donc, ils ont pris le tawhid, l'unicité d'Allah, de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Seulement, ils l'ont modifié, falsifié. Autant que les Yahoud et les Nasara avaient falsifié leur religion, ils avaient changé certains contenus, les Arabes avaient pris d'Ibrahim alayhi salam, mais ils avaient rajouté, tellement défiguré la religion qu'on est passé du monothéisme pur au polythéisme, à l'adoration des idoles et ainsi de suite. Donc le problème venait essentiellement des polythéistes, parce que, je reprends, ils estimaient être les héritiers d'Ibrahim alayhi salam et ils avaient, on va dire des règles sociales. C'est-à-dire, la société était construite c'était même pas pyramidal, c'était, je sais pas si ça existe des pyramides avec plusieurs pointes, je sais pas comment ça s'appelle. C'est-à-dire que tout dépendait des chefs de tribu. Ils donnaient une importance démesurée à la lignée, le sang, les valeurs tribales. Un peu comme en France, il y avait là le, il y avait quoi, ah, le tiers état, tout ça là, la noblesse, le clergé, tiers état, la noblesse, le sang noble. Et ils avaient mille et une superstitions. Les Arabes étaient extrêmement superstitieux. Et vous savez, mes chers frères et sœurs, la pire des choses, ce sont les croyances infondées. Ce sont les peurs infondées. Quand on a peur que quelqu'un, peut-être dans un pays ou dans un endroit, me veut du mal, si je fais ça, il va m'arriver ça, c'est perdu, c'est fini. Enfin, je ne sais pas si c'est perdu, mais ça devient extrêmement complexe pour recentrer la personne, pour revenir vers la crainte d'Allah, et c'est celui qui peut apporter, celui qui te donne du bien, qui te donne du mal, et ainsi de suite. Et les Arabes étaient extrêmement superstitieux, et ils avaient développé un code de spiritualité basé sur ces superstitions. Je reprends. Ils avaient basé, c'est peut-être un petit peu compliqué tout ça, un code de spiritualité, une pratique qui définissait les pieux des personnes qui n'étaient pas pieuses, basé sur des pratiques qu'ils avaient eux-mêmes inventées. Et souvent, par rapport à la superstition et aux fausses croyances. C'est-à-dire que c'était une communauté qui était pratiquante, mais c'était une pratique désorganisée et surtout une pratique totalement infondée. Mais ils s'accrochaient à ça, mais ils étaient prêts à mourir pour ça. Donnez-moi le nom de quelqu'un qui est mort pour ça. Alors que le prophète était à côté de lui. Faut qu'on prévoie des récompenses, hein. A dit Sam, si vous, tous les mardis, on met une boîte Jalibi. Non, non, c'est vrai, hein. Et les bonnes réponses, on met un Jalibi. Mais ben, comme on n'est pas très nombreux, et donc on met une boîte de 50. Après, le reste, nous gère. Nous gère, nous gère, inquiète pas. Faut pas, israf, haram, israf, pas bon, donc. Bon, alors.
Son oncle,
oui.
qui
Abou. Abou Talib.
Talib.
Qui pourtant l'avait épaulé, aidé. Défendu, protégé. Il y en a qui disent, oui, mais ça les protège, c'est pas lui. Oui, non, non. Allah l'a envoyé pour le protéger. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Il y a des gens qui sont dans l'excès de yaqin, tawakkul. Pour eux, c'est Allah, il fait tout et il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Non, non. Allah fait et Allah envoie ses soldats, des gens, des humains ou autres, pour t'assister. Donc, Allah, Rabbul Izzah, a envoyé Abu Talib. Pour protéger le prophète alayhi salat wa salam. C'était un sabab, un intermédiaire. Mais Abu Talib était tellement attaché à l'héritage culturel qui était très, très, très ancré. Vous voyez, un peu comme quand je vois MTA, je pense à Qatar, tout de même, un endroit un peu, je dis rien de plus, hein, pour pas vexer. Vous voyez, les Indiens, comment ils sont attachés à leur culture. Hein? Celui qui sort tel endroit, tel gant, tel machin, c'est. Je sais pas. Mais les Arabes, c'était 10 fois plus. L'héritage culturel des Abas, des grands-parents, des ancêtres, c'était ancré dans le cœur. Et c'est là, c'est une des difficultés principales de la mission du prophète, alayhi salat wa salam, enlever les fausses croyances et surtout, j'allais dire dévier, mais dévier c'est péjoratif, ramener les gens, les enlever d'un culte infondé, qui dure depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles de Baatil, et leur ouvrir les yeux pour qu'ils voient que c'est pas parce que mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mes aïeux ont fait ça que c'est haq, et voient quelqu'un qui apporte un message qui est radicalement opposé. Et c'est ça la vérité. Aja'al al-alihata ilaha wahida. Il a. Enfin, il n'y a pas réuni la bonne traduction, il faut voir dans le Coran. Mais toutes ces divinités, pour lui, il n'y en a qu'un seul qui est vrai. Et les Arabes ne pouvaient pas accepter ça. Donc, maintenant, on reprend de façon un peu plus structurée. Tant que on était proche de l'époque de Ismaïl, alayhi salam, combien de temps, je ne sais pas par contre, ce n'est pas précisé, les Arabes étaient de le tawhid. Mais il y a eu une personne qui les a détournés du droit chemin. Il s'appelait Amr ibn Luhay. Alors, Amr ibn Luhay, déjà entendu son nom avant, c'était un homme pieux, un homme pieux, un adorateur d'Allah, et les gens l'admiraient pour sa piété, et ainsi de suite. On le considérait comme un waliyullah. Comment on dit en langage commun ici? Hein? Un bouz? Bouzrouk. Ça, bouzrouk, ça. Si c'est un bouzrouk, voilà, sami'na wa ta'na. Si on voit qu'il a la barbe, comme ça, le café n'est bien blanc, bouzrouk. Après, comment il travaille, qu'est-ce qu'il a fait signer avec la banque, comment il agit avec sa femme, ses enfants. Non, bouzrouk. Wallah musta'an. Donc, c'était un homme reconnu à Makkah. Et Amr ibn Luhay avait l'habitude d'aller en Syrie. En Syrie. Et la Syrie était la terre des Anbiya. C'était la terre des révélations. Ce qu'on appelait à l'époque la région du Cham. Et donc, il a vu là-bas, donc en Syrie, des gens qui... Alors je lis le texte. Oui, des gens qui adoraient des idoles, pour faire simple. Il a vu, lors de ses voyages en Syrie, il a vu des gens adorer des idoles. Et il s'est dit que ça, c'est la terre de révélation. C'est la terre des prophètes. Si, vous voyez comment Shaitan travaille. Hein? Mon but, c'est quoi? C'est de nous faire comprendre qu'il y a des mécanismes sataniques. Et parfois, il y a les mêmes hein, qui perdurent. À nous de les déconstruire. Si en terre sainte, il y a telle chose qui est faite, c'est forcément bon. Et donc, il retourne à Mecca et il apporte une idole qui s'appelle Hubal. Première idole qui va détourner les Arabes du droit chemin. Et il va prendre cette idole, cette statue, il va le mettre au milieu de la Kaaba. Et comme c'était un savant, un homme pieux auquel les gens s'identifiaient, ils ont dit, si c'est un moun comme ça, quelqu'un d'aussi bien qui fait cette action, c'est forcément correct. Deuxième travail de Shaitan. Et on va détailler ça. Et les gens lui ont fait confiance. Ils l'ont suivi. S'il disait, il faut se faire ruku devant lui, il faut faire sijda, parce que quand on se soumet à lui, c'est comme si on se soumet à Allah, ben, les gens disent, ben, s'il dit, c'est vrai. Au pays des aveugles, le borgne-roi. Je pense que nous sommes dans la société des borgnes. Il y a énormément de rois, trop de rois. Donc, les gens l'ont obéi. Et les gens ont adoré Hubal, première idole à être adorée à Mecca. Et l'adoration des idoles s'est propagée dans toute la région du Hijaz. On connaît la région du Hijaz. Hijaz, c'est Mecca, Madina et... Vous savez le Grand Prix là. Et Jeddah. Ça, c'est la région du Hijaz. Après, si on monte plus haut, il y a la région du Najd, Riyad, Qasim, ainsi de suite. Donc, dans la région du Hijaz, l'adoration d'idoles s'est propagée. Et il y en a eu d'autres. Manat, Al-Uzza, Al-Lat. On entend ces noms d'idoles dans les versets du Coran. Vous connaissez le Coran, Imtiaz, non? Non? Afara'ayta Al-Lata, Wal-Uzza, wa Manata, Thalithata, Al-Ukhra. Le nom des idoles. Et il y en avait à Taïf, il y en avait différents endroits du Hijaz. Taïf fait partie du Hijaz. Taïf est d'aller autour de Mecca. Qui est déjà parti à Taïf? A déjà fini aller? Allah m'a dit, Inch'Allah, prochaine fois. Ah non, encore là, bismillah. Inch'Allah. Magnifique. Enfin, je fais la parenthèse. Je ne fais pas de trucs touristiques, mais Taïf, c'est très beau. Il faut aller en hiver. Donc, voilà, de l'Hijaz. Il y a trois leçons à retenir sur les approches de Shaitan. Premièrement, son nom échappe, Amr ibn Luhay, il instaure une action, il apporte quelque chose à la religion uniquement basé sur sa perception des choses. J'ai trouvé ça très beau, c'est bon. J'ai trouvé cette action intéressante. Je ne vais pas chercher à ce que c'était vraiment... La religion d'Ibrahim alayhi, non du tout. J'ai trouvé ça intéressant, je le fais. Et j'invite les gens. Ça, c'est la pire des choses. À notre époque, il faut qu'on réalise que notre perception de la religion ne doit pas être basée sur notre appréciation des choses, mais sur Qur'an wa Sunnah. On se base uniquement sur ce qu'Allah a dit et son messager alayhi salat wa salam a dit. Ne regarde pas ce que ton cœur envie. Et on appelle ça « ittiba' al-hawa ». Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, prennent le mauvais chemin parce qu'ils apportent à la religion des choses qu'ils estiment être bien. C'est l'origine de toutes les innovations des bid'ahs. Et ils ne regardent pas ce qu'Allah l'a demandé ou le prophète sallam l'a fait. Donc, se recentrer sur les textes. Amr bin Nuhay, certainement il n'y avait pas de texte à sa disposition, mais il écoutait son cœur. Deuxième erreur, se dire que parce que dans un endroit où il y a des croyants, il y a un péché, il y a quelque chose qui se fait, c'est forcément bon. Non, notre référence sera toujours ce qu'Allah a dit et ce que le prophète alayhi salatu wasalam a dit. Mais dans un pays 100% musulman, on fait un concert, on veut venir des chanteurs. Est-ce que ça veut dire parce que c'est dans ce pays musulman qu'ils ont fait venir des chanteurs, ils ont fait un concert, donc c'est autorisé? Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Ou alors celui qui pense comme ça, il a une pensée hypocrite. Il s'est acheté, c'était rodé un chemin pour échapper. D'accord? Et quand il a vu dans tel pays il le fait, il dit donc c'est autorisé. Non, on se base sur ce qu'Allah nous a donné de mieux, sa parole et l'enseignement du prophète alayhi salam, la sunna. Troisième erreur, c'est bon, on a résumé, vous voulez 3 minutes 2, c'est suffisant, ça résume. Donc, première erreur, ça vient de Amr ibn Luhay, qui détourne les gens du droit chemin. Et ensuite, ils vont aller, regardez, subhanallah, Allah musta'an plutôt, quand Shaytan, il a pris possession de ton cœur, jusqu'à où il peut te faire aller. Ils ont commencé avec Hubal. Et ils ont été déterrés les idoles qui étaient adorées à l'époque du peuple de Nuh alayhi salam. Vous vous rendez compte, entre Noé, Nuh alayhi salam, et l'époque pré-islamique, combien de siècles Shaitan les a tellement induits en erreur qu'ils ont été déterrés, ces idoles qui s'appelaient Wad Suwa', Yarouth, Nasr, et ainsi de suite. Et ils ont commencé à les adorer. Et ça s'est propagé dans toute la péninsule arabe. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam va entrer à Mecca en l'an 8 de l'Hégire pour le Fath Mecca, la conquête de Mecca, il aura en face de lui 360 idoles. Et il va les exterminer pour amener le haqq wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil. Na'am. Alors, quelle était leur relation, il nous reste 2 minutes, avec ces idoles? Ben, pour faire simple, ils les invoquaient carrément. Ils leur adressaient leurs demandes. Donc ça, c'est vraiment, on est dans le shirk total. Ils avaient même une partie de leur hajj, de leur pèlerinage, qui leur était consacrée. Et puis, il y avait, comme on l'a dit en introduction, des superstitions concernant le troupeau. La source de revenus principale des Arabes, c'était les troupeaux de chameaux, de moutons, de cabris, ainsi de suite. Et ils avaient là aussi créé une religion, hein, carrément, où il y avait certains types d'animaux qui étaient réservés pour les idoles. Et il y a des versets qui sont connus. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. C'était différentes catégories de chameaux. On ne va pas entrer dans les détails, mais là, ça nous donne une petite idée aussi de la richesse de la culture arabe et de la langue arabe. Maintenant, la chamelle qui avait déjà eu 5 femelle, je ne sais pas comment on dit un bébé chameau. La femelle, donc cinq petits, mais de sexe féminin. C'est extrêmement précis. La chamelle qui avait mis au monde 5 petits chameaux, on va dire, petite chamelle, d'accord, on l'appelait Bahira. Et ainsi de suite, pour chaque catégorie, en fonction du nombre de petits, il y avait des noms différents. Et donc, pour eux, il y avait une hiérarchie, et certains de ces animaux étaient réservés aux idoles. Et beaucoup de versets, mais on ne va pas les citer, ont été révélés pour rappeler ces Arabes que toutes ces pratiques-là n'ont aucun sens, n'ont strictement aucun fondement. Ils étaient superstitieux, genre s'ils voyaient un oiseau passer d'un endroit, ou une gazelle, et ainsi de suite, à l'endroit, c'était un signe. Ils voyaient des signes partout. Et là, ça nous permet de réaliser que la superstition, c'est quelque chose de tout à fait haram. Tout comme lire l'horoscope, consulter le sort, et ainsi de suite, même par curiosité, c'est haram, mais aussi le fait d'avoir des superstitions. Et ça, c'est souvent ça vient beaucoup de nos grands-parents aussi, de l'Inde, ça. Beaucoup de petites choses, faut pas faire ça, t'es le, faut pas faire ça, telle chose, tout. C'est des croyances infondées. Il faut, en fait, tout ça, on voit qui sourit sous le masque, tout ça, ça diminue la foi. Et ça affaiblit ta capacité à placer ta confiance en Allah. Si tu commences à développer des petites peurs à droite et à gauche, de si je fais ça, il va m'arriver ça, ainsi de suite, tu oublies que c'est Allah qui crée les situations. Ça affaiblit ton iman. Et quand il faut vraiment placer ta confiance en lui, tu n'as plus le jus pour le faire. Que ton iman, il s'est dispersé. Ta confiance n'est pas en Allah uniquement, mais en Allah et, wallahu musta'an, en différentes croyances qui sont totalement erronées. On doit faire très attention à la superstition. Faire très 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 attention. Naam. Et malgré ça, ces Arabes, le temps est terminé, malgré ça, il reste 45 secondes, ces Arabes à Mecca, ils donnaient une importance essentielle à la Kaaba, au Hajj et au Umrah, et au sacrifice. Il y a des actions qui, là, c'était l'héritage direct de Ibrahim alayhi salam. Et là, une petite parenthèse également, ce n'est pas parce qu'une personne va au Hajj tous les ans, ou que telle personne dit Ali tous les ans, Ramadan, Makkah, Madina, que c'est forcément quelqu'un d'exemplaire. C'est-à-dire, une personne peut passer les 11 mois de l'année dans le péché, travaille de façon illicite, il fait des choses haram et tout, et il se donne bonne conscience, je ne fais pas un jugement, il se donne bonne conscience, il va passer un mois Ramadan, tous les ans à Makkah, Madina. Et quand on dit aux personnes, attention, telle chose, c'est pas bon, on dit non, mais écoute, tu ne peux pas dire que lui, il est dans l'erreur. Tous les ans, Allah l'appelle près de sa maison. Ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vraiment, notre filtre, c'est est-ce que quelqu'un suit les ordres d'Allah ? Est-ce que la personne suit la sunna ? Rien d'autre. Parce que, allez, Makkah, Madina, si tu as une carte gold, tu as de l'argent, c'est Allah amène. Il n'y a pas le moindre doute. Mais je veux dire que, comprenez qu'il y a également des gens qui vont au Hajj, il y a des pickpockets qui vont au Hajj, on a dit ça. J'allais dire de moins en moins, mais c'est pas forcément vrai. D'accord? Il y a des gens qui vont avec de mauvaises intentions, mais ils y sont. Mais comment Allah les a amenés? Ben Allah les a donné la possibilité d'aller dans un endroit merveilleux. Ils détournent le bienfait, ils en font un péché. Les comptes là-haut, ce sera terrible. Terrible. Parce qu'il y a des gens qui meurent d'envie d'y aller pour faire le ibadah, faire le Hajj, ils peuvent pas. Et lui, il y va, il fait des mauvaises choses. Donc, ça, c'est comment on peut expliquer ça. Comment est-ce que nous, on doit comprendre. Mais je veux dire que on a souvent un jugement très limité. On voit quelqu'un avec une tenue vestimentaire, on voit une personne qui a un peu de connaissances, qui propage un peu et tout. On en fait directement un homme saint. Non, 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 c'est pas comme ça. On ne va pas dire qu'il n'est pas bon non plus, mais je veux dire, avant de juger ce qu'il dit, c'est pas par rapport à son être. Non, c'est par rapport au texte. Et de cette façon, on restera toujours dans le droit chemin. Et donc, même le Hajj, les Quraysh l'avaient revisité. Ils l'avaient détourné. Par exemple, ils n'allaient pas à Arafat. Ils n'allaient pas à Arafat. D'accord ? Certaines choses comme ça, pour eux, nous sommes les gens de l'enceinte sacrée, on n'a pas besoin d'aller à Arafat. Également, il y avait une dictature, hein. Celui qui vient faire le tawaf, il doit absolument acheter des vêtements de Mecca. Et s'il ne pouvait pas, ils étaient contraints de venir le soir sans vêtements. C'est-à-dire, on était dans le jahiliya, dans l'ignorance. Il n'y avait plus de pudeur, il n'y avait plus de cohérence. C'était vraiment de la barbarie. D'accord ? Donne un exemple dernier et puis on finit. Lorsqu'ils avaient mis le ihram, heureusement il n'y a plus ça dans le jour, hein, ça va comprendre. Lorsqu'ils avaient mis le ihram pour aller au Hajj, ben, ils ne sortaient pas par la porte de la maison. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils devaient percer un trou dans le mur de la maison à l'arrière. Pour eux, c'était la taqwa. C'est des choses infondées. Tout ça, c'est basé sur des superstitions. Ils en ont fait une religion. Imagine le tel Hilton, là, il faut casser. On aurait été très embêtant. D'accord? Et Allah Rabbul Izzah a révélé وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. C'est des versets qu'on a l'habitude d'entendre, mais tout ça, c'était pour réformer cette société arabe qui faisait vraiment du grand n'importe quoi avec la religion, avec l'héritage d'Ibrahim alayhi salam. Voilà, c'était un contexte extrêmement difficile. Les Yahoud et les Nassar, ils y étaient, mais très peu d'influence. Et les Arabes n'ont jamais vraiment pris ces deux religions parce que c'était pas en accord avec leur tradition. Et ils donnaient beaucoup plus d'importance à la culture, à la tradition. D'accord? C'est comme si quelqu'un veut aller donner de bons conseils à des gens qui, alors, je vais faire plus simple. Il est plus simple, il est plus facile de prêcher avec des personnes qui ne pratiquent pas, leur montrer c'est quoi le droit chemin, à la lumière du Coran et des hadiths, leur faire comprendre le but de notre existence, l'importance de cela. C'est plus simple. Quelqu'un qui va de zéro et qui apprend la religion avec toi. C'est plus facile que d'aller voir quelqu'un qui pratique, mais avec plein d'innovations, plein de bid'ah. Parce que là, il faut lui faire comprendre que tout ça, c'est pas bon. Et quand on va dire c'est pas bon, il dit non. Inna wajadna aba'ana ala umma. Nos parents, ils faisaient ça. On a trouvé nos parents, nos grands-parents, ils faisaient ça. On fait la même chose. Et donc, le voisin va prêcher un peuple qui est borné, qui est entêté avec des pratiques infondées. Mais pour eux, c'est comme de la révélation. Une mission extrêmement difficile. Maintenant, on va lui donner des qualités, bien sûr. Et Allah décrète qu'il va naître, et c'est terminé pour ce soir, dans une tribu noble. Donc là, il avait déjà une chance. Il donnait de l'importance uniquement aux nobles. Et le Prophète est Qurashi Hashimi. Il va naître de la lignée la plus noble des Quraysh, ce qui veut dire que les gens auront beaucoup de respect pour lui, beaucoup d'estime. Donc ça, c'était ce qu'Allah lui a accordé comme facilité. Mais il va vivre la prophétie la plus complexe, la plus difficile, alayhi afdalu salat wa tamu taslim, et en 23 années, il va enlever un peuple de l'ignorance, mina volumati, ilan, et les ramener vers la lumière. Des gens qui enterraient leurs filles vivantes, des gens qui éloignaient les femmes veuves parce qu'elles portaient malheur, des gens qui faisaient des choses ignobles, inhumaines. Le Prophète va en faire des sahaba, des gens à propos de qui Allah Rabbul Izzah a dit, radiyallahu anhum wa radu an, qui auront les plus hauts grades de le Jannah. Le Prophète alayhi salat wa salam va changer la péninsule arabe en 23 années. C'est une prophétie qui est courte, très 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 courte, mais ce sera le résultat le plus important. Le jour de Qiyamah, le Prophète alayhi salat wa salam aura là plus grande umma. Devant qui? Devant le prophète Moussa alayhi salam. En 23 années basse, une des plus courtes prophéties, mais un résultat extraordinaire avec l'aide d'Allah. Et c'est le but de voir qu'est-ce que cet homme a apporté à l'humanité. On voulait 5 minutes de plus pour répondre à une question, mais c'est une prochaine fois. Une prochaine fois, on essaiera de diminuer un peu le temps d'intervention. Et il y avait deux questions qu'on essaiera de dispatcher dans les programmes jusqu'à... Non, pas jusqu'à Noël, Imtiaz, jusqu'à la fin de l'année. Il y avait une question, un ami m'a demandé, j'ai des problèmes de waswasa concernant mon wuzu. J'ai des problèmes, des pensées qui vont dans tous les sens que je wuzu. Est-ce que j'ai une fuite d'urine, qu'on appelle incontinence urinaire, ou alors problème de gaz, ainsi de suite. Et ça me pourrit la vie. Donc ça prendrait 5 minutes une prochaine fois. Et deuxièmement, une personne m'a envoyé un mail, m'a écrit, m'a dit que voilà, j'ai écouté votre dernière intervention au Latanier où on avait parlé du respect des parents. Que le respect des parents, il n'y a pas de limite, ça. C'est ce qu'il y a de plus important après l'adoration d'Allah. Et cette personne me fait un témoignage que voilà, ben, j'ai un père qui est, voilà, beaucoup de choses négatives avec des détails. Ça peut être quelqu'un de violent, de virulent, de vraiment quelqu'un d'insupportable. Il dit, est-ce que je dois quand même avoir du respect pour quelqu'un qui est aussi mauvais? Et ça, c'est une notion aussi, c'est un point aussi important. On développera ça, on va garder pour la tanière vendredi, Inch'Allah. Jazakallah khair. Subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair.